Bonsoir à tous. La solidarité envers des éleveurs de volailles ce jeudi à Largens. Leurs volailles, poules et canards ont été abattus aujourd'hui dans le contexte de grippe aviaire. Un compromis qui satisfait les différentes parties en permettant l'accès au centre nautique de Montcoutant-sur-Sèvre. Le président du CNBB se réjouit de permettre à ses licenciés et salariés de poursuivre leurs activités. La 9e édition du salon Autour du fil s'ouvre demain à Montcoutant-sur-Sèvre. Il se tient sur 3 jours et devrait drainer des milliers de visiteurs autour du Portugal, invité d'honneur cette année. Les Amis des Arts proposent une exposition hommage à Marie-Louise Landreau à partir de ce week-end à la galerie du musée de Bressuire, et ce jusqu'au 11 décembre. Et puis, le foot amateur va suivre le mondial au Qatar dans un contexte particulier, mais avec toujours un impact pour la base.
La météo à l'issue de ce journal, grand week-end du 11 novembre, sec et lumineux.
Journée d'action pour les salaires ce jeudi à l'appel de la CGT à Thouars, par exemple. En fin de matinée, une centaine de manifestants se sont retrouvés place Flandre-Dunkerque. Ils étaient également une centaine de salariés de la DAPI des Deux-Sèvres à avoir suivi ce mouvement. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés au rond-point de la Bressandière à Châtillon-sur-Thouars. De son côté, Force Ouvrière organise un meeting le 15 novembre à Venir en présence de Christian Grolier, secrétaire général de la Fédération Générale des Fonctionnaires. Ce meeting aura lieu à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne.
Ils étaient une centaine d'éleveurs et sympathisants réunis en ce début d'après-midi devant la ferme Les Rochers de François et Marie Jossardet à Largas.
Toujours mobilisés contre la gestion sanitaire de la grippe aviaire, la Confédération Paysanne et le collectif Sauve qui poule s'y sont donc retrouvés pour apporter leur soutien aux couples d'éleveurs dont les volailles, poules et canards ont été abattus aujourd'hui. Tous estiment qu'aucun enseignement n'a été tiré des crises précédentes et que ces abattages préventifs de volailles saines sont absurdes, comme le dénonce Sarah Rizoug, éleveuse à Saint-Mémin.
Il y a des tests qui ont été faits tous les 48 heures sur les animaux pour prouver qu'elles sont négatives. Et à ce jour, il n'y a aucune volaille malade sur l'élevage. Et là, il se trouve que c'est un élevage en volaille diversifiée, 100% plein air, autarcique, avec valorisation des volailles en circuit court et une conserverie sur la ferme. Là, ce qui est d'autant plus choquant, c'est que les volailles ne sont pas malades. Et que pour des éleveurs en circuit court comme Marie-Jo et François, c'est la mise à mort de leur système d'élevage. En fait, là, ce qui est, on va dire, quasiment pour nous tous, un tiers de notre chiffre d'affaires annuel, hein, ce sont les volailles de Noël. Et là, on va clairement abattre le peu de reste d'activité qu'ils auraient pu réaliser sur la fin d'année. C'est un coup de massue, clairement, c'est vraiment pire nouvelle qu'ils auraient pu avoir cette année. Clairement, c'est le système industriel qui veut passer le rouleau compresseur sur les petits élevages. Donc nous, on veut tenir tête et on veut être pris pour ce qu'on est, c'est-à-dire des élevages beaucoup plus résilients face à la maladie que les élevages industriels.
C'est aussi l'emploi agricole local qui est touché, en l'occurrence. L'exploitation Les Rochers à Largas salarie 4 personnes à temps plein, désormais au chômage technique. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts des Deux-Sèvres indique soutenir les éleveurs de volailles en plein air, victimes de l'abattage préventif de leurs sujets indemnes de grippe aviaire. Rien ne justifie une telle décision, si ce n'est le dogme sanitaire défendu par le gouvernement qui préfère sacrifier des élevages sains pour protéger des fermes usines dans lesquelles justement se développent les épizooties. Soulignons que depuis aujourd'hui, face à la diffusion du virus, le niveau de risque est désormais porté de modéré à élevé sur l'ensemble du pays, ce qui implique que toutes les volailles de France vont être confinées. Reportage signé Jacqueline Pinot.
Nous l'évoquions, Patrice, dans nos précédentes éditions.
Ce n'est pas un rétro-pédalage en raison des messages diffusés sur les réseaux sociaux, pour reprendre les mots du président de l'Aglo de Bé mardi soir dernier, mais le résultat des échanges en présentiel entre la collectivité et les clubs de natation de Bressuire et de Cerisay. Ces derniers ont obtenu la poursuite de leurs activités sur le centre nautique de Montcoutant-sur-Sèvre, alors que les sites de Bressuire et de Cerisay seront fermés temporairement afin de limiter les dépenses énergétiques. Le président du CNBB, le Cercle des nageurs du Bocage Bressuire, se réjouit de ce compromis. Sébastien Chevalier.
Notre demande, elle était qu'il y ait au moins un bassin d'ouvert pour que les nageurs et l'ensemble des usagers puissent continuer de profiter des bienfaits de la natation. Et nous, notre demande, on défendait essentiellement nos adhérents, on défendait nos 3 entraîneurs qui sont salariés, et puis la natation en général. Donc les échanges ont permis comprendre l'ensemble des enjeux des différents parties et enfin d'aboutir à l'ouverture d'un bassin et celui de Montcoutant-sur-Cère. Nous avons échangé, on a compris les uns les autres les arguments de chacun et voilà, et ça s'est fait intelligemment et on aboutit à ce résultat qui est très bien. On a 15 nageurs au niveau des régions qui vont se déplacer à Agen au mois de décembre sur deux week-ends, donc voilà, on ne pouvait pas passer de 5 entraînements semaine à zéro avant ces compétitions, c'était juste pas possible. Donc là, tout va pouvoir se dérouler dans le meilleur des mondes.
La réaction de Sébastien Chevalier, le président du CNBB, après la décision de l'Aglo de B de maintenir ouvert le centre nautique de Montcoutant-sur-Sèvre. Un nouveau point d'étape est prévu mi-janvier pour évoquer la suite à donner à cette situation qui ne réjouit aucune partie, mais imposée par les circonstances budgétaires.
Le retour du salon du fil à Montcoutant-sur-Sèvre.
Après une interruption en 2020 en raison de la crise sanitaire, la commune retrouve l'un des plus importants salons amateurs du genre. Et cerise sur le gâteau, la section broderie de la Maison pour tous a rajouté une journée à ce salon qui se tiendra toute cette fin de semaine, de vendredi à dimanche inclus. On y annonce dans les deux salles de la chaînée la participation de 75 créateurs et exposants et sans doute près de 5000 visiteurs de toute la France, avec cette année comme invité d'honneur le Portugal. Joëlle Le Saint, la présidente du salon.
Le Portugal parce que nous avions vu par internet une exposition dans un village qui est Vila Nova de Cerveira. Pendant le salon, nous allons avoir énormément de leurs réalisations, de très grands modèles, des personnages. Et nous avons surtout une contrebasse qui fait 4 mètres de haut dans l'entrée et qui est tout au crochet. Ils sont très sensibles aux traditions, donc on va aussi avoir des costumes traditionnels. Ils mettent en valeur vraiment leur patrimoine culturel.
En quoi leur broderie est-elle différente de l'on fait ici ?
Alors, c'est du crochet. C'est pas de la broderie, c'est du crochet, avec toutes sortes de fils. Sur le salon, on va avoir des exposants qui vont travailler du crochet, mais de façon tout à fait différente. On va pouvoir comparer ce qui est traditionnel au Portugal, et puis nos jeunes créatrices en France qui travaillent le crochet.
Après l'Ukraine, lors de la dernière édition du Salon du Fil à Montcoutant-sur-Sèvre en 2018. C'est donc le Portugal, le pays hôte cette année, plus précisément la ville de Vila Nova de Cerveira. Le Salon de Montcoutant s'ouvre demain pour 3 jours. Entrée 3,50€ et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.
Elle était autodidacte et rien ne lui résistait.
Marie-Louise Landreau, une vraie personnalité, un franc-parler et surtout une soif d'apprendre, de faire et de transmettre.
Reportage signé Jacqueline Pinon.
C'est tout cela qu'était Marie-Louise de Landreau, bressuiresse d'adoption, décédée en novembre 2019 à l'âge de 89 ans. Très impliquée dans la vie culturelle locale, à la poterie comme au verger des sculpteurs dont elle fut présidente, l'exposition rétrospective de la vie artistique de Marie-Louise parle d'elle-même, tant ses peintures, sculptures, tissages et broderies reflètent l'artiste généreuse qu'elle était. Qui mieux que l'un de ses 4 enfants, François, désormais bressuiré lui aussi, pour nous en parler.
Elle nous a laissé un témoignage de son passage qui est varié, dense, intense. Donc on va représenter ici qu'une petite partie de ce qu'elle nous a laissé à tous, sachant que beaucoup de choses sont parties à droite, à gauche, qui ont eu leur existence propre. On ne sait où aujourd'hui.
Comment vous définiriez son travail ?
Maman, c'était quelqu'un qui aimait faire, qui aimait donner, qui recherchait en permanence de nouvelles choses à réaliser, à créer, à découvrir. En fait, elle expérimentait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle trouvait. Son travail, c'est ce que ça reflète, c'est-à-dire qu'elle a commencé par la peinture, puis elle s'est rapidement mise à la poterie, au tissage, à la dentelle, aux émaux sur cuivre, à la sculpture sur bois, sur pierre, etc. C'est une vie très très dense de ce point de vue-là, artistiquement parlant. Et puis, c'était aussi la transmission, c'est-à-dire que dans tout ce qu'elle a fait, elle a voulu aussi transmettre, apprendre aux autres ce qu'elle avait, elle, découvert. C'est pas que faire pour faire, c'était vraiment faire et partager.
Nul doute que les anecdotes sur ses œuvres vont ressurgir lors du vernissage de ce samedi, comme cette nuit de 1981, à quelques jours de l'élection présidentielle, où Marie-Louise, accompagnée de l'ancien maire Claude Boutet, craignant quelques excès militants, avait préféré rester veiller les œuvres exposées dans la galerie, encore ouverte à tout vent à l'époque. L'artiste n'avait pas perdu son temps, profitant de cet intermède pour sculpter le portrait de Claude Boutet.
Une exposition proposée par les Amis des Arts à voir dans la galerie du musée de Bressuire tous les week-ends du 12 novembre au 11 décembre. Aucune œuvre n'est à vendre. Marie-Louise Landreau ne courait ni après les ventes, ni après la gloire. C'était juste le plaisir de créer.
L'actualité sportive ce soir, Patrice.
En donnant la liste des 25 joueurs appelés à disputer le mondial au Qatar, Didier Deschamps a lancé une campagne que la France espère mener jusqu'au 18 décembre, date de la finale. Un calendrier et un pays hôte qui font beaucoup parler, plutôt négativement. C'est bien dommage pour le football amateur, à mille lieues de toutes ces considérations politico-financières. Le président du district de football des Deux-Sèvres, Daniel Guignard.
Dépenser des milliards et des milliards. Enfin, ils sont pleins d'argent, je suis d'accord. Mais quand même, c'est pas ça le football. Le football, il faut rester jouer sur des stades où il n'y a pas besoin de mettre de climatisation ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu n'importe quoi. Enfin après, ce qui est dommageable, c'est que tout le monde se réveille aujourd'hui. Alors c'est pas d'aujourd'hui que la Coupe du Monde a été décidée au Qatar. Hein. C'était à ce moment-là qu'il fallait se réveiller. C'est pas 2-3 mois avant cette Coupe du Monde qu'il faut dire tout ce qui s'y passe. Tout le monde le savait. Donc c'est qu'une histoire d'argent. Malheureusement, le football à ce niveau-là, c'est que l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent qui mène tout. Quoi. C'est pas le football amateur. C'est pas ça. Moi, mon football, c'est pas ça.
Mais le football amateur dépend aussi des bons résultats de l'équipe de France. Il y a toujours des répercussions dans les écoles de football après les grandes compétitions.
Un beau parcours de l'équipe de France, ça nous amène des jeunes, il faut pas se voiler la face. Hein. Et l'équipe de France est la locomotive du sport, du football national. Nous, le district, on a besoin de ça pour les jeunes. Ils se réfèrent à ces gens-là, à ces équipes-là, ce qu'ils voient à la télé par nos équipes nationales, le haut niveau, et ça nous amène des licenciés, c'est clair. Ce que je souhaite, c'est qu'on passe une belle Coupe du Monde avec l'équipe de France, qu'ils aillent le plus loin possible, et que ça soit du bon football, qu'on prenne du plaisir à les regarder, et que tout le monde prenne du plaisir à les regarder.
Le district qui va d'ailleurs faire en sorte qu'il n'y ait pas de match le 18 décembre, jour de la finale de ce mondial.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Un temps calme et plutôt bien ensoleillé ce jeudi, Patrice.
Attention cependant au brouillard qui pourrait à nouveau se former dans le courant de cette soirée que l'on pourrait retrouver demain matin en début de journée. Un vendredi férié demain qui verra le soleil dominer. Début de journée quand même un peu frais hein, avec des températures de l'ordre de 5-6 degrés pour des maximales qui grimperont jusqu'à 17-18 voire 19 degrés. Nous aurons également un samedi et un dimanche lumineux et sec. Que malgré la présence de plus ou moins de nuages, pas de changement côté température.
Merci Patrice. La fin de la semaine, en quelque sorte, pour l'info qui reviendra quand même samedi matin.
Samedi matin à 8h avec Fabien. Bonne soirée, bon week-end prolongé si c'est le cas. Je vous retrouverai dès samedi soir pour parler football, mais également le week-end à venir aux côtés de Fabien pour Soir Matin Dimanche et Sport Dimanche Dernière.
Salut Patrice.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.